Mes bien chers amis, il y a eu plusieurs révolutions au cours de l'histoire. Contrairement à ce que l'on pense souvent, ces révolutions n'ont jamais été l'œuvre du peuple lui-même. Les masses ont pu servir d'instruments, surtout de chair à massacre. Mais les révolutions sont préparées, fomentées, puis accaparées par des révolutionnaires intellectuels, par des gens instruits qui, une fois au pouvoir, imposent au peuple bien autre chose que ce qu'ils ont promis de lui servir. Ce fut le cas pour la Révolution française, préparée dans les loges maçonniques et dans des salons où se réunissaient, sous le nom de société de pensée, des gens de la noblesse et du clergé, bien plus que des hommes du peuple. C'est le cas aussi pour les révolutions communistes de nos jours. Les chefs révolutionnaires ne sortent pas des taudis ni de couches ignorantes. Lénine avait fait des études universitaires. Staline embrassa le communisme pendant qu'il était au séminaire pour se préparer à devenir un prêtre de l'Église orthodoxe russe. Castro était étudiant à l'Université de la Havane lorsque lui aussi se fit communiste. D'ailleurs, l'auteur du manifeste communiste d'il y a 125 ans, Karl Marx, avait lui-même fait des études universitaires. Et les premiers propagateurs de ses idées après sa mort furent des intellectuels. Au Canada, le socialisme qui mène au communisme par degrés est poussé par des intellectuels qui suivent les méthodes des fabianistes d'Angleterre et des États-Unis. Endoctriner les intellectuels dès leurs années d'études universitaires, les préparer à prendre des places dans les organes de diffusion, journaux, radios, télévisions, qui leur permettront de façonner l'opinion publique, et des postes élevés dans les bureaux des ministères et dans les commissions d'enquête où ils auront de l'influence sur les gouvernements. Le tout pour procéder vers le socialisme d'État par degrés, de façon à ce que la population ne s'éveille pas à temps pour y mettre de la résistance. Ces intellectuels socialistes et socialisants se sont installés dans les universités, à Londres d'abord, par leur école économique fondée par les Webb et grassement financée par un or anglais juif, Sir Ernest Cassell. Puis ils sont passés en Amérique, s'installant dans les universités Harvard, Princeton, Columbia, à l'université de New York, à celle de Pennsylvanie, etc. On trouve des professeurs de leur esprit dans nos universités canadiennes, celles de Montréal et de Laval y comprises. Dans les pays comme le Canada et dans les États-Unis et autres places, la méthode de procéder par degrés est bien plus dangereuse parce qu'elle suscite moins d'attention publique que la méthode violente à la manière russe, chinoise ou cubaine. Cela ne veut pas dire que la méthode violente manque d'intellectuels qui savent profiter de l'occasion quand elle se présente pour s'emparer du pouvoir par la force et établir le totalitarisme. Cela nous amène à dire quelques mots du bolchevisme de Lénine. Lénine, dont le vrai nom était Vladimir Ulyanov, naquit en Russie d'une famille de fonctionnaires en 1870. Il avait 21 ans quand il fut expulsé de l'université de Kazan à cause de ses idées trop radicales. À 26 ans, il fut condamné à 3 ans de Sibérie, après quoi il se fixa à Genève, puis à Paris. En 1903, Lénine assistait à Londres à un congrès de socialistes dont il faisait partie. Jugeant ce groupement trop doux, il s'en sépara avec 7 autres pour former un parti dissident qu'il appela bolchevique, c'est-à-dire révolutionnaire au maximum. Lénine était pour la manière forte, rapide, extrême, violente, pour imposer le communisme. Il trouvait la méthode par degrés des Fabiens trop lente, beaucoup trop longue. Et Lénine comptait sur des membres actifs, pas sur de simples adhérents, pour réussir. Lui-même l'a défini en une phrase. Le seul principe d'organisation que les travailleurs actifs de notre mouvement puissent accepter, c'est le secret absolu, un triage rigoureux pour admission dans le parti et la formation de révolutionnaires accomplis et dédiés. Le parti se composerait donc d'un nombre relativement petit de révolutionnaires entraînés, disciplinés, fanatiques, prêts à tout par tous les moyens, légaux ou illégaux. Ces membres du parti devaient détourner le prestige, l'influence, le pouvoir des institutions établies au bénéfice du communisme. Concernant le monde du travail, par exemple, ils devaient être prêts à tous les sacrifices, disaient-ils, recourir, si c'était nécessaire, à toutes sortes de trucs, de manœuvres, de méthodes illégales, de subterfuges, afin de pénétrer dans les syndicats ouvriers, d'y demeurer et d'y accomplir l'œuvre communiste à tout prix. Lénine recommandait aux membres de son parti bolchevique d'être aux aguets, de surveiller, de cultiver les moindres scissions dans les rangs des adversaires, de susciter de telles divisions, même s'ils ne pouvaient compter les rendre permanentes, en profiter au moins en passant et les envenimer le plus possible. En 1907, 4 ans après sa fondation, le parti bolcheviste rassembla ses membres de nouveau à Londres. Il n'était encore que 17. Ils cherchaient un endroit convenable pour tenir leur séance. Les Fabiens vinrent à leur secours. Ramsay MacDonald, futur premier ministre, leur obtint l'usage de la Brotherhood Church. Et la conférence du congrès de ces bolchevistes fut financée par un don de 15 000 piastres de M. Joseph Fels, un riche Américain, manufacturier de savon et un des dirigeants des Fabiens des États-Unis. C'est une erreur de s'imaginer qu'il y a incompatibilité et impossibilité d'entente entre les communistes et les hommes d'argent. Après Fels, ce sont des banquiers juifs de New York, la banque Kuhn-Loeb, entre autres, qui aidèrent financièrement Trotsky à former une gang de révolutionnaires qui défrayèrent les dépenses de rapatriement de ces révolutionnaires en Russie et celles de leur coup d'État de 1917. L'effectif de 17 membres du parti en 1907 était devenu 200 000 en 1917, lorsqu'ils réussirent à prendre le pouvoir à l'avantage du chaos qui suivait la défaite de la Russie dans la guerre. Le succès des bolchevistes ne déplut pas du tout aux Fabiens. Au contraire, en 1931, alors que Lénine et après lui Staline a eu massacré et emprisonné des millions de Russes pour asseoir leur dictature en Russie, un des trois fondateurs des socialistes fabiens, Georges Bernard Shaw, ne trouvait rien à leur reprocher. Au contraire, il disait dans un discours prononcé à Moscou, « C'est un véritable plaisir pour moi, un vieil homme, d'être capable d'entrer dans ma tombe en sachant que la civilisation du monde sera sauvée. C'est ici, en Russie, que j'ai acquis la conviction que le nouveau système communiste peut sortir l'humanité de sa crise actuelle, la sauver de l'anarchie et de la ruine complète. D'ailleurs, partout où des communistes doivent faire face à des accusations, on voit des socialistes intellectuels, des Fabiens, voler à leur secours. C'est ce que firent Eleanor Roosevelt, Dean Rusk, Adlai Stevenson et Felix Frankfurter lorsque un des plus hauts fonctionnaires du département d'État, Adjiagis, fut accusé d'être un agent communiste. Lorsque lui et Laughlin Curry furent formellement accusés, la veuve du président Roosevelt s'exclama « Salut la réputation de personnes comme Adjiagis et Laughlin Curry est, je crois, impardonnable. » Pourtant, ils furent condamnés par la cour. Le fondateur du bolchevisme, Lénine, mourut en 1924. Il n'avait été que 7 années à la tête du gouvernement communiste de Moscou. Avant de mourir, il traça un plan de conquête mondiale qui se résume ainsi. Nous prendrons d'abord l'Est de l'Europe, puis l'Asie. Nous encerclerons ensuite les États-Unis, qui seront le dernier bastion du capitalisme. Nous n'aurons même pas à attaquer, ils tomberont entre nos mains comme un fruit mûr. Ce plan a passablement réussi jusqu'ici, et toujours en profitant de circonstances rendues favorables par de hauts fonctionnaires socialistes intellectuels qui entourent et influencent les gouvernements des pays libres. En présentant ces notes sur le socialisme et le communisme, le bolchevisme, Nous avons pour but, entre autres, de mettre la population en garde contre un ennemi redoutable qui nous menace. Contre les communistes déclarés, bien sûr, mais aussi, et peut-être encore plus, contre ceux qui, sans en porter l'étiquette, nous mènent au communisme par degré. Ils sont les cagoulards du communisme. Ces communistes sans nom sont plus dangereux justement parce qu'ils portent moins à la défiance, parce que leur visage est soit masqué, soit moins répugnant. Plus dangereux parce qu'ils trouvent facilement accès à des organes de diffusion, à des studios de radio et de télévision, à des colonnes de journaux, à des tribunes de propagande, à des chaires d'enseignement dans les universités et dans les écoles, là où les responsables craindraient trop la réaction du public en y admettant des membres du Parti communiste comme tels. Ces précurseurs du communisme, conscients ou non du rôle qu'ils accomplissent, préconisent ou appuient tout ce qui diminue la personne, les centralisations, les fusions, le gigantisme industriel, la collectivisation des moyens de production, les étatisations, toujours évidemment en les justifiant par l'incapacité financière des individus, des familles, des corps publics locaux. Et jamais ils n'insistent pour la suppression de cette incapacité financière, comme le ferait l'application des principes du crédit social. Au contraire, qu'ils connaissent ou qu'ils ignorent le crédit social, ils y sont fermement opposés. Ils sont comme le chef socialiste anglais qui disait un jour à Douglas, fondateur de l'école créditiste, « Peu m'importe que vos propositions créditistes puissent être efficaces ou non, c'est leur but que je n'aime pas. » Nous sommes en face d'une conspiration démoniaque dont les plans d'attaque sont multiples, comme l'hydre de Lerne à sept têtes. D'ailleurs, le démon lui-même l'a dit, il est légion, il est franc-maçonnerie, il est laïcisme, il est dictature financière, il est socialisme d'État, il est communisme, il est corruption des mœurs, il est déshabillé, il est perversion, il est mensonge, il est confusion des esprits, il est apathie des bons comme il est prosélytisme des méchants, il est course à l'argent, il est recherche d'un confort sans plafond, etc., etc. C'est tout cela qu'il nous faut combattre. Par notre sanctification personnelle, par la proclamation et la diffusion de la vérité, par le don de nous-mêmes et l'apostolat auprès de nos frères, par la prière, par la réponse au message passé au monde par Marie elle-même à Fatima, l'année même où le communisme s'installait politiquement à Moscou. C'est à ce compte que la victoire viendra, que le cœur immaculé de Marie triomphera. Sa promesse est là. Quand, nous ne le savons pas. Mais ce que nous savons, c'est ce que nous avons à faire. Faisons-le et laissons le reste à la volonté de Dieu.